pour rappeler brièvement que la société syrienne est une société qui est divisée sur des bases confessionnelles et sur des bases ethniques. La mosaïque de ses appartenances du temps du régime autoritaire tenait par ce que l'on peut appeler le ciment de l'autoritarisme du régime. Il faudrait, si cette main de fer se relâche, y substituer un lien politique au sens moderne du terme, c'est-à-dire un lien consenti par chacune des composantes de la mosaïque ethnique et confessionnelle. Cette opération, elle est difficile, elle est longue, et il se trouve qu'elle s'opère dans des conditions particulièrement délicates. Pourquoi elle s'opère ? En exil, c'est-à-dire que la population destinée à s'entendre est fractionnée sur plusieurs pays. Elle se perd avec des prétendants dont la représentativité respective n'a été sanctionnée, mesurée et validée par aucun scrutin. Elle se perd en tension avec une opposition intérieure qui s'est militarisée et qui a donc produit des ressources de légitimité concurrentes à celles des gens de l'opposition en exil. Et elle s'opère enfin sous la pression des puissances étrangères qui investissent, qui soutiennent ce conseil, en espérant donc y retrouver leur mise ultérieurement lorsque le pays se rouvrira. Et donc ce conseil subit non seulement des tensions internes difficiles à réguler, mais des tensions externes. Donc il n'est pas complètement étonnant qu'il soit dans cet état d'inachèvement où il se trouve aujourd'hui.
Quels sont les liens réels entre le CNS et l'opposition sur le terrain ?
Très très insuffisant. Si vous avez, je l'ai fait pour ma part, eu la possibilité de discuter avec certains des représentants de l'ASL. Dans le meilleur des cas, je dirais pour se crédibiliser, on dit oui, j'ai rencontré machin et je connais un tel. Mais globalement, je pense que si on ose généraliser, c'est pour dire que le CNS a une très mauvaise réputation. Il a la réputation, je dirais, d'une assemblée de gens qui se sont davantage consacrés à se répartir le pouvoir qu'à se soucier des conditions dans lesquelles ce pouvoir pourrait être pris. Et ils sont en train de se diviser dans une situation qui pourrait être la situation au lendemain de la chute du régime, alors que leur première mission aurait dû être de faire taire leurs dissensions, de créer des canaux de financement ou d'armement ou des canaux humanitaires pour se créer une clientèle à l'intérieur du pays. Or, dans une conjoncture qui est celle d'un pays en lutte, si vous n'avez que des déclarations à l'extérieur et que vous ne faites pas parvenir sur le terrain des ressources, il n'y a absolument aucune raison que les gens qui se débrouillent tout seuls à l'intérieur vous respectent et obéissent à vos consignes.
En quoi les agendas politiques au sein du Conseil national syrien, en particulier des frères musulmans, pèsent sur les décisions de l'organisation ?
Musulmans que je mettrais comme les plus inconciliables, c'est les Kurdes, puisqu'ils demandaient des garanties d'autonomie pour des régions dans lesquelles ils ne sont même pas démographiquement majoritaires. Les frères musulmans, je pense que le problème est souvent mal posé. On a l'impression que les islamistes ont fait une OPA sur la représentation du CNS. Il faut quand même être clair. Les islamistes dans le tissu politique syrien, ils sont présents. L'idée que le Qatar fait une erreur tactique ou essaye de tirer la couverture à lui parce qu'il a comme interlocuteur les islamistes, n'oublions pas ce qui s'est passé en Égypte quand même. Il faut peut-être discuter avec les acteurs politiques qui sont réellement implantés dans la société. Donc le débat avec les frères musulmans, c'est moins un débat de pourcentage attribué aux islamistes que de ceux qui représentent ce courant. C'est plus des rivalités individuelles que de véritables clivages idéologiques entre les membres du CNS.